Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kémis.
C'est parti ! En 1890, à New York, le photographe de rue Jacob Riis publiait « Comment l'autre moitié vit », un essai sur la condition sociale des prolétaires dans les taudis de la ville. Nous aussi, aujourd'hui, on voudrait savoir comment vit l'autre moitié de l'humanité. Après MeToo, est-ce aux femmes de porter le vent du changement ou aux hommes de se saisir de la question qui les concerne ? Est-ce que pour eux, ça change tout ou rien ? Est-ce simplement un léger frémissement ? On donnerait cher ces jours-ci pour écouter ce dont les hommes parlent entre eux en ce grand moment de déconstruction. Alors on leur a posé la question. Mais avant de parler du thème, on accueille Kémis.
Hello.
Salut. Quoi de neuf, ça va ?
Bah écoute, ça va. En ce moment, je me mets au jardinage. Incroyable, mais vrai. Ma mère s'est
qui
bien...
l'eût cru ?
Ouais, je te jure, ma mère s'est bien foutue de moi. Donc j'avais commencé à acheter des plantes et à les planter sur mon balcon. Et en fait, c'est super sympa. C'est super relaxant d'avoir les mains dans la terre.
Il y aura moins de mauvaises herbes qui auront la place.
Et comme tu plantes dru, il y a moins de lumière au sol. Et pour le coup, il y a moins de mauvaises herbes qui poussent.
Je comprends. C'est
ensuite,
tout va bien.
C'est vrai ?
J'en ai pas trop.
Là, c'est pas mal.
Ouais, j'avoue que la plante lady est en train de remplacer la cat lady, enfin, en tout cas sur Instagram. Bah, moi aussi, en fait, j'ai un petit jardin mal entretenu, mais dont je m'occupe aussi,
ouais.
Avec le printemps et des allergies, tout ça. Et moi, récemment, j'ai été au concert de la chanteuse suédoise Robin.
T'as trop de la chance.
Qui dit que donc on peut... chanter et danser toute seule, que c'est OK. Et j'ai aussi été au festival Les Femmes Sans Mêle et j'ai découvert pas mal de groupes de meufs. Et voilà, tout le monde a dansé seins nus sur scène. Et alors, du côté de l'actualité féministe, on peut se congratuler, même s'auto-congratuler, d'être citée cette semaine dans l'hebdomadaire Marianne, avec sa couverture « L'offensive des obsédés de la race, du sexe, du genre et de l'identité ».
On a appris les très mauvaises ventes du magazine Marianne en 2018.
Oui, retrouvez donc dès la semaine prochaine dans Marianne un dossier spécial sur les musulmans et le sabotage de la presse écrite.
Ouais, ça va remonter, là, c'est sûr.
Ouais.
Donc voilà, qui a mis Quoi de Meuf aux côtés de La Poudre et d'autres, en bonne place,
ouais.
Dans une sorte de brûlot complotiste. Voilà, en fait, on serait la nouvelle franc-maçonnerie.
En plus, qu'ils font des hits sur les francs-maçons, ouais. Donc...
Je sais pas ce que t'en as pensé.
Au début, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, parce que les gens qui me demandent des bibliographies, ça va être trop bien. Là, j'ai un matériel à leur filer, et en même temps, j'ai pas envie de donner de l'argent à Marianne, donc bon... Voilà, mais je pense que c'est un bon matériel. Il y a peut-être des gens qui vont aller découvrir des lectures. Mmh. Mais enfin, alors ça m'a fait rire. En même temps, je suis habituée de ce type d'excès, hein, d'excès et d'obsession sur les militants antiracistes et tous les gens, les personnes qui prônent en fait un discours qui vise à plus d'égalité, mais de manière un peu plus, on va dire, engagée et impatiente. Donc, bon, moi, j'étais juste là en mode, bon, je vais juste pas leur donner mon argent, mais écoute, s'ils veulent nous donner tous les pouvoirs du monde, s'ils pensent qu'on est partout...
seulement.
Ouais, voilà, j'ai envie de te dire, moi, j'attends l'argent. Je veux l'argent en question, mais bon.
Il y a quand même écrit Gloubi Boulga indigéniste.
Ouais, non, mais... déjà, indigéniste, ça veut dire quoi ? Enfin, tu vois, déjà, enfin... Bref, il y a vraiment beaucoup de trucs à déconstruire. Je pense qu'on pourrait faire tout un épisode de...
On fera un épisode obsédé de la race.
Non, mais je te
jure. Et du sexe et du genre.
Mais je serais tellement là. Non, mais tu vois, genre, tous les mots qui sont utilisés pour délégitimer des combats, voilà, indigénistes, communautaristes, ististes, racialistes, machin. Bref,
ouais.
On est habitués. C'est pas grave. Là, ils ont au moins mis des bonnes bibliographies, donc je suis contente.
Bon, alors pour revenir au thème de la semaine, aujourd'hui, on va faire un épisode qui est un peu inhabituel et qui déroge un peu à la règle. On va beaucoup parler d'hommes.
J'aime pas les garçons.
Donc, ne partez pas.
Et du coup, on s'est posé la question à 2 millions d'euros. Alors, où sont les vrais mecs féministes? Est-ce qu'ils existent? Qui sont-ils?
C'est comme les licornes.
Quels sont leurs réseaux? Faut-il dire allié, pro-féministe ou homme féministe? Enfin bref, plein de questions quoi.
En tout cas, une chose est sûre, le mouvement féministe place aujourd'hui les hommes dans une position paradoxale, voire carrément inconfortable. Mais en tout cas, voilà, il paraît tout de même incontournable de se poser pas mal de questions quand on est un homme cis, un homme trans, un homme hétéro, un homme gay, voilà. Alors, comment négocier ces évolutions? Comment trouver sa place et faire le bien autour de soi? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, et depuis longtemps, les hommes féministes ont été liés de près ou de loin au mouvement pour les droits des femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment et pourquoi?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire un historique parce que je suis sûre, en tout cas j'espère, je croise des doigts qu'il y a eu quelques hommes qui se reconnaissaient dans l'histoire féministe et dans les propos féministes, mais qu'il y a quelques-uns où, soyons folles, plein, nombreux d'entre eux qui sont restés anonymes. Mais je vais en citer quelques-uns dans le contexte de l'histoire européenne et française. Donc, il y a eu François Poulain de la Barre, qui est un philosophe féministe à l'époque de Louis XIV et qui a écrit sur l'égalité des sexes et l'éducation des dames.
C'était bien le seul.
Ouais, je te jure.
Et aujourd'hui, en tout cas en France, il y a surtout un sociologue en particulier qui travaille sur ces questions-là, c'est Alban Jacquemart, qui a travaillé sur ces questions-là dans sa thèse intitulée « Les hommes dans les mouvements féministes français entre 1870 et 2010, sociologie d'un engagement ». Il l'a soutenu en 2011 à l'EHESS. Je vous invite à vous y référer.
En 1804 est créé le code civil napoléonien qui fait des femmes des mineures juridiques. Donc elles n'ont aucun droit sociaux, légaux, sans autorisation d'abord du père, puis du mari. Je fais une petite parenthèse, mais par exemple, c'est aussi au XIXe siècle le moment de l'infériorisation scientifique des femmes.
Ouais, comme cette thèse est dispo sur Internet, elle est assez précieuse, effectivement. Il a notamment, dans cette thèse, retracé la vie de Léon Richer, qu'il a appelé le père du féminisme. Alors, je mets plein de guillemets. Hein. Je mets plein de guillemets. Donc, il est né en 1824. Et donc, c'est un clerc qui va notamment faire de nombreuses conférences dans lesquelles il prône l'égalité, et notamment intellectuelle, parce que c'était pas un acquis, entre les hommes et les femmes. Donc en avril 1869, il publie un journal qui se focalise sur ces questions, et ce journal qui s'appelle « Le droit des femmes », et qui deviendra ensuite « L'avenir des femmes ». Donc en 1870, il crée avec l'avocate féministe Maria de Reims.
Ouais, on l'oublie pas dans l'histoire, on la jette pas avec l'eau du bain.
C'est sûr. Donc une association qui s'appelle l'Association pour le droit des femmes, qui rassemble plusieurs dizaines de membres. Donc en 1889, il est également à l'origine d'un congrès international pour les droits des femmes et il sera un peu moins d'un siècle après consacré par Simone de Beauvoir, donc c'est pas n'importe qui, qui lui donnera le titre de père du féminisme français. Mmh. Voilà.
Donc, bon, si Simone le dit.
Voilà. Pour un peu décentrer la question, on peut aussi prendre l'exemple de Thomas Sankara. Donc c'est un capitaine qui a mené l'indépendance du Burkina Faso, qui était avant appelé la Haute-Volta, qui était donc un capitaine socialiste, voilà, qui avait des idées internationalistes, voilà, quelqu'un d'assez engagé dans la gauche radicale. Et il s'est aussi engagé dans l'émancipation des femmes. Il pensait que la révolution et la révolution des Africains et des Africaines passait par l'émancipation des hommes et des femmes. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage sur la question.
Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe.
Donc je pensais que c'était intéressant aussi de rappeler ce pan de Sankara qu'on a tendance à beaucoup oublier.
Oui, et alors ensuite, au cours du XXe siècle, l'implication des hommes dans tous ces mouvements féministes a pas mal évolué. au gré des conquêtes et des reflux de ces mouvements. Mmh. Et c'est vrai qu'ils ont été de moins en moins vus comme indispensables, désolée, à partir du moment où les femmes ont été de plus en plus présentes dans l'espace public et politique. Et notamment lorsqu'il y a eu des mouvements féministes radicaux, donc dans les années 70, y a eu pas mal de groupes non mixtes pour se mettre à l'abri du sexisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du MLF, le mouvement pour la libération des femmes, la non-mixité n'était pas toujours totale, puisque les hommes pouvaient participer à certaines tâches ou à certaines méthodes d'organisation, mais qui étaient assignées par des militantes. Et ça n'a pas toujours été très bien vécu, puisque, sniff, sniff, certains avaient un peu du mal à gérer l'idée donc, de cette non-mixité ou à supporter certaines règles lors d'événements ou de manifestations qui disaient simplement que les hommes devaient se mettre derrière.
Pour une fois.
Oui, ouais, c'est ça, et ne pas prendre toute la place. Et alors, aux États-Unis, à peu près à la même période, il y a une conférence féministe qui est organisée en Californie en 1978. Et à ce moment-là, des opposants à la guerre du Vietnam et des pacifistes décident de monter le bien nommé groupe Men Against Sexist Violence à San Francisco et commencent à se réunir pour parler des problèmes de violence sexiste et sexuelle et pour se former dans des ateliers auprès des écoles, dans les prisons. Et ils expliquent que selon eux, en fait, tout le monde y gagne à déconstruire le sexisme, et notamment les hommes.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce n'était pas de la com'. Je pense que c'est assez réjouissant.
Contrairement à aujourd'hui. Il n'y avait pas Instagram.
Je te jure, il n'y avait pas l'hashtag. Et donc, il y avait vraiment un engagement concret, en fait. Ça se limitait pas au port d'un t-shirt genre « This is what a feminist look like ». Et en fait, finalement, contrairement à certaines figures qu'on voit qui viennent juste pour faire des coups de com' avec des t-shirts, là, il y avait vraiment un engagement concret sur le terrain pour que... y ait un changement féministe qui s'opère. Et c'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant, par rapport à peut-être maintenant.
Prenez-en de la graine. Et alors, pour parler un petit peu de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pas une surprise, mais MeToo a vraiment occasionné une remise en cause des systèmes de valeurs et des normes des comportements. Et évidemment, ça ne va pas sans une certaine ambivalence, voire une résistance masculine. Alors la question, c'est surtout, est-ce que les hommes sont les grands absents du mouvement MeToo ? On a pu voir, pour citer un peu de résistance, ce que Caroline Dehaas s'est pris dans la gueule. Quand elle a écrit qu'un homme sur trois est potentiellement un agresseur, alors que voilà, pas mal d'études montrent que quand il y a 250 femmes victimes de viol ou tentatives de viol par an, ça c'est ce que disent souvent les pancartes en manif, si on connaît tous et toutes une femme qui a été violée, il est probable que l'on connaisse tous et toutes un violeur. Oui. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un grand impensé du mouvement MeToo dont les hommes doivent absolument se saisir et s'approprier et déconstruire.
Un truc qu'on n'arrive pas encore à imprimer, c'est que si une femme sur deux dans notre entourage a été victime de violences sexuelles, c'est sans doute que des hommes dans notre entourage ont été des agresseurs sexuels. Est-ce que c'est un homme sur deux ? Est-ce que c'est un homme sur trois ? Je n'en sais rien. Nous n'avons pas de statistiques pour le dire.
Alors, comment faire, du coup ? Sans doute, il faut questionner ces pratiques passées. Je pense qu'il faut aussi s'excuser, ça ne fait pas de mal.
C'est clair.
Donc, beaucoup d'hommes se demandent comment s'améliorer, comment renverser la masculinité hégémonique, où trouver de nouveaux modèles, puisque c'est vrai que l'apprentissage du féminisme, mais y compris pour les femmes, n'est pas linéaire et voilà, personne n'est irréprochable. Donc, à l'aune du mouvement MeToo, il y a quand même eu des tribunes signées par des hommes en soutien, notamment dans le nouveau magazine littéraire, posant la question qui reste toujours la même, c'est-à-dire de savoir si les mouvements de femmes ont besoin ou non des hommes pour avancer et pour visibiliser la lutte et les pratiques. Je pense que c'est une épineuse question qui continue à faire débat. Mais en tout cas, il y a eu un livre collectif qui est paru sur MeToo qui s'appelle « Cours, petite fille », dans lequel le sociologue Samuel Lequette écrit « Dans un système qui consiste à dire que le corps des femmes est à la disposition des hommes, la mise en œuvre d'un discours masculin remettant en cause ses fondements est un premier pas vers l'affirmation d'une conscience partagée. » Je pense qu'on est assez d'accord.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages, on voit qu'il y a quand même un soutien. Alors, on dira ce qu'on veut des sondages, hein, mais
reste du déclaratif.
Voilà, voilà. Mais du coup, on peut noter quand même, il y a plusieurs sondages qui sont sortis sur la question MeToo et de Balance ton porc. On voit qu'il y a en mars 2018, il y a dans une enquête Ipsos pour Question Directe, 66% des hommes, enfin en tout cas 66% des personnes interrogées pensaient que les hashtags Balance ton porc et MeToo étaient une bonne chose. En juin, on a vu un autre sondage. En juin donc 2018, on a vu un autre sondage pour Le Parisien Week-end aujourd'hui en France Opinionway qui montrait un enthousiasme encore plus grand, qui avait 90% des personnes interrogées, donc des hommes, pensaient que que l'écho donné à l'affaire Weinstein était légitime. 87% disaient même qu'il était nécessaire. Après, il y a toujours les personnes qui pensent que c'est excessif, mais bon, voilà, hein, on s'en fout. Et puis, il y a quand même 16% des hommes qui disent dans un troisième sondage que MeToo a changé la façon dont ils perçoivent la question du harcèlement sexuel. Bon.
Ça tombe bien puisque c'est souvent du harcèlement masculin. Voilà. Donc, il serait temps.
Voilà, c'est ça. Bon, on va essayer d'être positive en disant que ça ne peut qu'augmenter. Et ce chiffre atteint même 25% chez les moins de 35 ans. Bon, alors les sondages sont assez encourageants. Ensuite, on va voir dans la pratique. Mmh. Et puis, voilà, bon, ça reste quand même intéressant de voir cet enthousiasme qui n'est pas forcément acquis.
Et effectivement, je pense que ce qui peut aussi freiner peut-être l'engagement féministe des hommes, enfin, outre le fait que ce soit peut-être vu comme pas légitime ou ringard, c'est que c'est un engagement qui a un coût social, notamment parce que pour les hommes pro-féministes, certains ont pu être harcelés, cyber-harcelés, on l'a vu avec l'histoire de la Ligue du LOL. Par des trolls masculinistes et autres. Et d'ailleurs, Thomas Messias, qui présente sur Slate le podcast Mansplaining sur les masculinités, dit, lui, qu'il a carrément cessé de fréquenter des groupes de garçons, donc qui deviennent souvent des boys clubs. Mmh. Et que donc, voilà, il a vraiment reconfiguré sa vie sociale autour de ces nuisances-là.
Bien sûr.
Ce qui est un choix assez radical. Enfin, je pense que ce n'est pas évident pour la plupart des hommes de se priver de leur groupe d'amis. Alors, est-ce qu'on a justement des contre-modèles à proposer ?
Ouais, bien sûr. Alors, je pense que ce qui est important, c'est les mecs, ou peut-être donner des exemples d'hommes, de mecs qui participent à des actes féministes et qui ne se suffisent pas de parler. Et comme on dit, il faut joindre le geste à la parole, sinon on est un tonneau vide. Nous, on préfère Andy Murray à Justin Trudeau, par exemple. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être cohérent dans sa vie personnelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont, enfin, des hommes qui se prétendent féministes et qui finalement laissent toujours leur mère ou leur sœur laver la vaisselle. Non, ça ne fonctionne pas. Je pense que voilà, c'est assez intéressant.
Alors, dans le militantisme, par exemple, il faut rappeler qu'il y a des hommes qui militent à des organisations comme Oser le féminisme ou le collectif Georgette Sand, qui avait d'ailleurs fait une fausse campagne de pub très drôle en 2016 pour un parfum qui s'appelait L'Homme Féministe.
Bien sûr.
Sa aussi... cocotte.
Il y a aussi, il faut quand même citer des initiatives qui sont intéressantes, notamment celle du collectif Jamais Sans Elle. Donc, c'est une association d'experts qui a entendu, en fait, finalement, le discours de femmes féministes sur l'absence d'expertes dans les milieux universitaires, dans les panels, des conférences, etc. Et qui ensuite s'engage à refuser de participer aux dites conférences s'il n'y a pas de femmes. Donc c'est intéressant. C'est intéressant.
Aux États-Unis, il y a des collectifs d'hommes contre le viol, donc par exemple Men Against Rape, qui n'a pas vraiment d'équivalent en France, et je trouve que c'est bien dommage, et qui porte justement la question des violences faites aux femmes en disant que ce sont des violences masculines. Mmh. Ouais, c'est quand même important à rappeler.
Bien sûr, oui.
Et alors, on peut aussi donner un petit cookie à Maxime Ruzniewski, qui est l'ancien conseiller de Najat Vallaud-Belkacem et qui est le co-créateur de la Fondation des Femmes. Il a été élu par le Média Club Elle, homme féministe de l'année 2018. Donc voilà, on vous invite à le suivre.
Au travail, ça peut être des remarques déplacées qu'on entend tous les jours et puis on se dit « Allez, je vais pas faire de remarques à mon collègue de travail parce que finalement, j'ose pas trop, ça me regarde pas », alors que c'est notre devoir finalement d'intervenir.
Et en France, on peut aussi citer des initiatives comme Zéro Macho, qui est un groupe abolitionniste qui existe depuis un petit moment.
Et puis il y a aussi Elliot Leper, c'est son projet Macholand, où on peut faire des actions collectives qui sont contre le sexisme. Et je pense que c'est aussi intéressant de rappeler qu'il y a un militant, je crois, ce week-end, qui a été attaqué par un groupe identitaire, donc un groupe d'extrême droite, parce que justement il participait à un projet qui s'appelle Meuf Meuf Meuf.
Et alors, du côté de la sociologie, il faut rappeler qu'il y a toujours très peu d'hommes en études de genre, puisqu'évidemment, sur le plan universitaire, on délègue toujours aux femmes le soin de s'attaquer aux questions de genre. Mais on peut quand même se référer aux travaux d'Éric Fassin, de Francis Dupuy-Déry, qu'on a déjà cité, de Raphaël Liogier. Et sur Instagram, on voit qu'il y a quand même une petite épidémie sur les réseaux sociaux d'hommes féministes qui le mettent même dans leur bio. Il y a notamment un compte qui s'appelle Tuband, qui essaie de déconstruire les injonctions à la masculinité, à la virilité. Petit bémol, néanmoins, on nous a rapporté des propos assez douteux venant de ce compte en privé. Donc voilà, cette personne est-elle vraiment déconstruite ? La question est posée.
Ouais, c'est toujours la question du public et du privé, mais bon, on va en parler justement.
Oui, alors justement, le double effet qui se coule de cette déconstruction masculine à haut risque, ce sont les faux amis ou les misogynes woke, c'est-à-dire déconstruits à l'extérieur, diaboliques à l'intérieur. Et le cas le plus criant de ce phénomène assez répandu, c'est le producteur Harvey Weinstein qui avait à l'époque soutenu Hillary Clinton, qui avait produit un film sur les viols sur les campus et qui s'est révélé en fait vraiment l'inverse de ce qu'il prônait.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et sur Instagram, je recommande le compte Awards for Good Boys, qui se moque justement des fuckboys qui draguent grâce à MeToo et donc des faux good guys qui profitent de l'avantage que leur procure cette nouvelle situation pour mieux harceler des femmes et les maltraiter dans leur vie privée. Voilà, c'est un fléau. Il y a d'ailleurs une journaliste américaine, la grande reporter Rukmi Kalimachi, qui était interviewée dans un podcast, qui disait que ses ex se considéraient tous comme féministes, mais qu'en réalité, ils l'avaient tous freiné dans sa carrière et qu'ils disaient se sentir émasculés par son succès.
Mais ouais,
voilà, paradoxe.
C'est vraiment une grosse blague, effectivement, parce qu'il y a un petit vernis un peu pop de se dire qu'on est un peu un gentil garçon, un nice guy. Les gens qui disent trop gentil, justement, c'est les pires, surtout les mecs. Voilà, voilà. Et puis, on peut noter ce continuum, en fait, cette dichotomie entre la personne publique féministe et le privé. On peut donner l'exemple du grand avocat des femmes, Eric Schneiderman, qui n'a rien à voir avec Daniel Schneiderman, d'arrêt sur l'image d'ailleurs, hein, je suis le temps à le dire. C'était un magistrat, un procureur de l'État de New York qui a lutté contre Harvey Weinstein et contre le harcèlement sexuel. Lui-même s'est révélé être dans l'intimité un gros dégueu, un sadique sexuel qui abusait les femmes, dont deux militantes féministes et une avocate, en les soumettant à des violences qui sont évidemment non consenties et en les menaçant de mort si elles rompent avec lui. Donc bon, ouais. Paye ton mec, hein, voilà.
Oh, shit.
Voilà, c'est ça.
Et cet effet pervers, c'est ce qu'on a appelé l'effet piédestal, qui est vraiment à double tranchant. C'est un petit peu comme le syndrome de la Schtroumpfette. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'hommes féministes que finalement, on a tendance à les survaloriser, à les surexposer, au lieu de valoriser les femmes qui, en fait, ont fait ce travail militant gratuitement depuis des centaines d'années.
Surtout qu'en sachant que, ben, je pense qu'on va le redire, hein, mais derrière chaque homme féministe, il y a une femme qui a... Il y a trois femmes épuisées qui ont fait des cours, qui ont chouchouté, qui ont répondu à des questions. Voilà.
Et alors, pour parler un petit peu de notre expérience, de près ou de loin, avec les hommes féministes, si on en a déjà rencontré, moi, la première personne, je pense, à laquelle j'ai été exposée, c'est mon père, même s'il n'a jamais revendiqué cette étiquette-là. Lui, il a pris plusieurs mois de congé à ma naissance pour s'occuper de moi, ce qui était quand même assez rare, je pense, à l'époque, pendant que ma mère travaillait. Aujourd'hui, il fait la majorité des tâches ménagères et notamment la lessive. Et c'est vraiment lui qui prend en charge l'émotivité dans le couple parce qu'il pleure très facilement. Voilà, après, il n'est absolument pas irréprochable sur beaucoup de points sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais voilà, mais c'est, enfin, pour moi, c'est un bon exemple, un bon modèle. Et moi, dans ma vie amicale, c'est vrai que je me demande souvent si je peux rester amie avec des hommes qui ne sont pas conscientisés. Et surtout aussi, être un mec féministe, c'est quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet et qui étale sa science, ou au contraire, quelqu'un qui la ferme et qui écoute. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, moi, personnellement, je pense qu'en tant que féministe, hein, les mecs qui m'intéressent le plus au niveau du féminisme, c'est ceux qui sont silencieux et qui laissent parler les actes. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, comme c'est valorisé dans certains milieux d'être vu comme étant un mec féministe, donc t'as la perle rare, et donc en fait, tu vas t'en servir dans le marché de la drague, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont la bouche, mais qui font aucun taf derrière. Et je pense que justement, ça doit pas rester une étiquette, un peu une espèce d'identité qu'on veut s'accoler, et que ça doit rester ancré dans des faits. Je pense que aussi, mais ça c'est valable pour tout, mais encore plus, je pense, pour les hommes féministes, entre guillemets, c'est ceux qui prétendent pas être déconstruits, en fait. Parce que, ou ceux qui prétendent pas voilà, se dire que, voilà, moi, je suis le mec bien. Tu sais, il y a Anna Gatsby qui en parlait dans son spectacle, ceux qui font la ligne, qui tracent la ligne entre les mecs bien et les autres. Ceux qui prétendent pas être à l'abri de dérapage et qui pensent, qui savent, en fait, qu'ils doivent être constamment vigilants. Pour eux comme pour nous, qui m'intéresse le plus, c'est ceux qui ont compris, en fait, finalement, là, je fais un peu une petite liste de devoirs, mais voilà, je pense que c'est ceux qui ont compris que leur boulot peut être multiple, que c'est d'être là pour faire la vaisselle, et faire laver les toilettes, changer les couches, donc des choses qui sont vraiment dégradantes, hein, pas juste faire la cuisine, dans leur vie personnelle. Et c'est ceux voilà, qui sont assez silencieux, qui vont payer les pots des groupes féministes, qui vont payer les pots communs et voilà, les collectes d'argent, qui considèrent ça comme normal, finalement. Et c'est ceux aussi qui, voilà, comme tu le disais, dans les groupes d'amis, en fait, qui vont prendre position sur les blagues et les propos, surtout en soirée, parce qu'on en a marre, en fait, d'être toujours la méchante féministe qui empêche de les gens de rigoler. Et parfois, ça fait du bien aussi d'avoir des mecs qui disent « Non, mais en fait, là, c'est pas marrant. Ces blagues, sexistes, en fait. »
Oui, puis surtout, les autres mecs vont les écouter, voilà, beaucoup plus que nous.
Voilà, donc soyez vraiment des... En fait, il faut aussi apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut parler, parce que c'est pas méchant, mais pour faire de la théorie féministe, en fait, je pense qu'il y a déjà plein de femmes féministes qui ont déjà fait la théorie, en fait. Donc, on n'a pas forcément besoin de mecs à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, dans le concret, dans les actes qui sont moins glamour, voilà, qui n'ont pas de rétribution immédiate, où il n'y a personne pour donner des médailles, il n'y a personne pour dire « Oh là là, t'es tellement bien !» Et ben, c'est là, en fait, que je pense qu'ils peuvent être assez intéressants. Après, voilà, on l'a dit un peu plus tôt, hein, créer des cercles de mecs, ça peut être très compliqué, surtout quand vous êtes que entre mecs hétéro blancs un peu riches, ça va être un peu vite compliqué. Mais je pense que voilà, il faut aussi quand même essayer de trouver des cercles masculins, de complices masculins, et repenser peut-être aussi la relation émotionnelle, enfin, en tout cas, je le dis comme ça en tant que femme, mais repenser la relation émotionnelle entre mecs, en fait, finalement, qui doit pas juste se construire sur la violence exercée qu'on a vue dans les boys clubs, hein, la violence exercée envers les femmes, envers les personnes LGBTQ+.
Qui est vraiment le ciment de l'amitié masculine.
C'est ça, en fait, parce qu'en fait, toutes leurs blagues, quand tu te rends compte, c'est que des blagues envers d'autres personnes. Donc, bon, tu dis, c'est ça d'être pote.
C'est vrai que dans le milieu du journalisme, c'est assez troublant, puisque maintenant, il est de bon ton d'être féministe. Donc nous, on a vraiment éduqué des collègues à nous qui maintenant en tirent tous les bénéfices, des collègues masculins, évidemment, qui ne nous ont jamais remerciés et qui, c'est maintenant, ont ce vernis de journaliste féministe, et en plus en étant des garçons, donc en ayant le privilège de la rareté.
Bah oui.
Donc c'est d'autant plus énervant.
Et puis être mère, enfin, juste, tu t'as bien dit, ne vous ont pas remercié. Alors déjà, je pense que c'est la moindre des choses, mais en plus, je pense qu'un merci, c'est... Bon, alors c'est bien gentil, mais moi, je veux des rétributions sociales, voilà, je veux des réparations, en fait, pas juste un merci, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent merci, mais bon, merci en privé.
C'est gratuit.
Ouais, voilà, dans un DM, bon, t'es gentil, mais voilà, quoi. Donc, voilà.
Et alors, on va écouter le témoignage de Maxime, qui est chercheur et a été initié au féminisme à New York, où il a vécu.
J'ai du mal à identifier exactement quand était ma première exposition au féminisme, mais je me souviens très bien de cet artiste belge il y a peut-être 6-7 ans qui s'était filmé dans les rues de Bruxelles en train de se faire alpaguer. Et j'étais avec ma copine à l'époque et je lui ai demandé « Est-ce que toi, ça t'arrive aussi dans les rues de Paris ?» Et je m'attendais à ce qu'elle me dise « Ben non ». Elle m'a dit « Ben oui, évidemment ». Et je suis tombé des nues parce que je n'avais jamais parlé à personne avant. Et je me suis dit « Waouh, ma copine, elle subit tout ça et ça m'a révolté ». Et ça a été, je pense, le premier truc fort, quoi. Donc j'ai beaucoup lu autour de ça ensuite et voilà.
Et du coup, oui, est-ce que le fait d'être aux États-Unis, ça t'a conscientisé, enfin, le fait que ce soit plus répandu là-bas, enfin, est-ce que voilà, tu t'es autorisé aussi à plus de choses en étant là-bas ?
Oui, évidemment, parce que peut-être un an après cet événement, on a déménagé à New York. Et à New York, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats, de réflexions dans la presse, sur Internet, beaucoup plus par rapport à la France. Et donc, quand on lit le New York Times, qui est le journal local là-bas, eh ben, dans le New York Times, il y a plein de débats sur le féminisme, écrits par des gens pour, des gens contre, les différents modes de féminisme, les différentes tendances. Donc effectivement, quand on lit un peu, on est exposé à ça.
Et toi, du coup, concrètement, comment ça se manifeste dans ta vie ?
C'est une bonne question, j'y ai réfléchi avant de venir te parler. Je ne sais pas, c'est difficile à répondre. J'hésite à genrer mes phrases. Je fais un peu un effort pour dire j'ai rencontré une personne et je dis pas une femme ou un homme. Je réfléchis aussi beaucoup au ce qu'on peut appeler le gender blind, le fait de dire que ok, être féministe c'est de considérer que les hommes c'est l'équivalent, que les femmes c'est l'équivalent, sont l'équivalent des hommes ou à niveau égal. En fait, de la même façon qu'être color blind c'est mal, être gender blind c'est mal et être féministe c'est pas considérer que tout est égal. Puisque la société fait qu'on n'est pas tous égaux.
Et est-ce que tu as l'impression, dans tes groupes d'amis hommes, que ça change quelque chose, ou que toi, tu arrives à les influencer un petit peu ? Comment c'est perçu ?
Alors, je pense que parmi mes amis, enfin, je ne suis pas ami avec des gens bêtes, et donc mes amis sont aussi assez exposés à tout ça. Et on en parle assez peu, et c'est dans nos discussions... Enfin, on n'en parle pas, en fait. Je sais pas. Enfin, ouais, pour te répondre plus franchement, on n'en parle pas.
Ok. Alors, on a également reçu pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux, y compris de gens venant chercher leurs croquettes ou se plaignant d'une supposée guerre des sexes. Donc, je vous cite un témoignage. « Je confronte systématiquement les gens qui tiennent des propos sexistes, y compris des gens de ma famille. Je m'efforce de ne pas faire de man-interrupting et je m'informe pas mal avec des livres, des articles, des podcasts. » J'essaie de choper la charge mentale, argent, courses, lessive, préparation des repas et ménage. Et c'est un vrai effort. Du coup, si je suis honnête, il y a des pas que j'ai du mal à franchir. Je perçois assez bien que même si je me débarrasse de la plupart des comportements paternalistes, protecteurs et machistes, je ne suis difficilement capable de me penser autrement que comme un super-héros, un amant endurant et costaud, ou ce genre de stéréotype. Voilà. Donc je trouve ça bien d'avoir l'honnêteté de le reconnaître, même quand on fait des efforts. Et alors, est-ce qu'on a des conseils à donner justement pour les hommes qui voudraient faire des efforts, être un peu féministes ?
Les conseils...
Non.
Non, je pense que c'est, voilà, comme on l'a dit, hein, continuer à se renseigner, continuer à comprendre voilà, la notion de privilège... poser une question à une meuf. Bon, après, il faut aussi... Enfin, je pense que c'est effectivement, c'est une position compliquée. Et c'est assez... Et puis, ouais, c'est une position assez compliquée quand même. Hein. Je ne vais pas le dire, parce que poser une question à une meuf, ça dépend. Des fois, on en a marre aussi de répondre aux questions, donc c'est un peu compliqué. Mmh. Toi, t'en penses quoi ? T'as des conseils, toi, en particulier ?
Justement, sur la notion de privilège, il y a Miguel qui s'est exprimé dans le podcast Extimité. Mmh. Qui a expliqué qu'il a été à la fois féministe, mais qu'il se sentait encore sexiste. On l'écoute.
Quand on est dominant, on a toujours des privilèges. Et c'est le fait d'être un mec aussi, ça m'aide à comprendre l'expérience blanche, mais je suis un mec. Je peux me permettre de ne pas parler de féminisme, mais bon, ça me touche aussi parce que je suis au queer. Ça me touche indirectement. Mais je peux ne pas être out et ça me touchera. Quand je parle de féminisme, je suis directement pris comme quelqu'un d'objectif, qui sait de quoi il parle. Et j'ai tous les privilèges qui viennent avec être un mec féministe et d'avoir tout le prestige.
On peut aussi se référer aux paroles d'un homme trans éminent, c'est Paul B. Preciado, qui vient de sortir le recueil d'essais « Un appartement sur Uranus okay. ». Et lui explique précisément ce que ça fait d'être passé du côté obscur, puisque aujourd'hui, donc après avoir été une femme cis et être aujourd'hui un homme trans, il se rend compte qu'il a le droit de tout faire, qu'on lui ouvre grand les portes de la vie, et que désormais il fait partie de ce qu'il appelle l'aristocratie du genre, et que ça le met vraiment en colère.
Tout ce que j'avais pensé en tant que féministe, en tant que lesbienne, etc., c'est 6000 fois pire. Mais je suis très énervé. Je suis très énervé parce qu'en fait, tout ce que j'avais pensé en tant que féministe, en tant que lesbienne, etc., c'est 6000 fois pire, en fait. C'est évidemment, en fait, qu'on devient un homme blanc avec un passeport européen. On rentre dans l'aristocratie du genre, c'est clair. Et là, tout vous est permis, en réalité. La ville est à vous. Vous pouvez vous promener le matin, le soir, la nuit, vous faire exactement ce que vous voulez, prendre le taxi, rentrer dans les hôtels, sortir, payer, pas payer, rigoler, pas rigoler, évidemment, toucher qui vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Vous avez un droit absolument total.
Je pense que, il faut aussi se rappeler, comme on le disait tout à l'heure, éviter de parler à la place des autres. Et puis, comme le dit le témoignage, prendre en compte la charge mentale et émotionnelle. Et puis aussi, je pense que aussi, un truc qui est important, c'est arrêter que les meufs fassent de la pédagogie à votre place. Je pense que c'est super important. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire que souvent, en fait, les féministes, elles sont épuisées. Enfin, on en a déjà parlé dans ce podcast et ailleurs. Et donc,
renseignez-vous.
Donc, je pense que il faut faire la démarche. Enfin, en tant que femme, il faut... Déjà, si on comprend que les femmes féministes, elles ont, elles, fait la démarche de se déconstruire, mais surtout d'apprendre, en fait, comment fonctionnaient les structures de domination, etc., elles ont fait ce travail. Il n'y avait personne pour leur marcher le travail. Donc, je pense que les mecs, ils sont capables de le faire. Seuls aussi. Donc, je pense que les mecs sont aussi capables de faire des ateliers. Et des ateliers, qui déconstruisent, en fait, les relations que vous avez entre mecs, en fait, tout simplement.
Pour devenir de meilleurs alliés masculins.
Et puis, tout simplement, en fait, il y a des trucs très simples, vous pouvez donner de l'argent, il y a déjà des groupes. Si vous êtes pas, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas le courage ou je ne sais ou la possibilité, l'argent c'est aussi un bon outil en fait de lutte qui manque parfois.
Et alors si vous aidez une femme en situation délicate, surtout ne la draguez pas ensuite.
Oh, d'ailleurs c'est tellement trash.
Il y a un sketch de Saturday Night Live qui raconte très bien ce phénomène.
Excuse me, is this seat taken?
Oh,
I'm sorry, I'm not like a gross guy trying to hit on you or anything. I can't find a seat.
Okay, yeah, sure.
Thanks. Believe me, I know this place is filled with skeezy guys.
I think the whole world is.
I think one is our president.
God, don't remind me.
Il y a Alban Jacquemart qui en parlait justement dans la thèse qu'on a citée au début du podcast. Il y a une problématique qui est centrale pour les hommes féministes qui sont ou qui veulent rentrer dans des groupes de féminins, c'est qu'ils doivent passer par un processus de disempowerment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme un peu barbare? C'est que c'est l'inverse en fait de ce que doivent faire les femmes pour justement se valoriser, etc. Quand elles utilisent les groupes associatifs et de parole, les groupes militants pour se valoriser, pour gagner de la puissance, pour lutter contre le patriarcat, les hommes féministes, en fait, ils doivent de plus en plus accepter l'idée qu'il faut perdre du pouvoir. Parce qu'en fait, l'abolition du patriarcat, il ne faut pas se mentir, c'est une perte, finalement, du pouvoir des hommes sur les femmes. Donc, à un moment, il faut être honnête et il faut faire ce processus et c'est compliqué. D'ailleurs, il l'a bien montré dans sa thèse.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop. Culture.
Et alors, dans la pop culture, ce qui est déjà assez criant, c'est qu'il y a assez peu de représentations et que ce sont souvent des figures très ambivalentes. Nous, on les a déjà mises en avant dans plusieurs mini-épisodes, donc on vous invite à vous y référer, notamment dans Sex Education, dans le spectacle de l'humoriste Laurence Yama, dans la télé-réalité Queer Eye. On peut aussi vous inviter à voir au théâtre le spectacle Le silence des hommes du rappeur D2 Cabal.
Ma vie, en travaillant sur les questions du masculin, en baladant un petit peu, en travaillant sur cette question hyper simple. Donc on a, pour faire très très simple et très très court, on a réuni des hommes entre eux pendant plusieurs mois, plusieurs heures par mois. Le plus vieux groupe, ça va faire 3 ans qu'on se réunit pour interroger qui on est, comment on fonctionne. La base de nos discussions, c'est, OK, fabriquons un espace dans lequel on va dire des choses qu'on a jamais dites.
Qui a co-créé House of Consent, donc la maison du consentement, avec la journaliste Héloïse Bouton, qui s'occupe de Madame Rapp. Et du côté de la BD, on peut aussi se référer à la bande dessinée Le projet Crocodile de Thomas Mathieu, qui lui aussi a été initié au féminisme par sa compagne de l'époque, il faut le rappeler. Mais sinon, c'est vrai qu'on a été assez marqués par la chute d'hommes féministes très en vue, comme le comédien américain Aziz Ansari, on en a déjà parlé, qui fait en ce moment son comeback contre le politiquement correct.
Oh, c'est pas surprenant.
C'est vraiment ironique. Il y a aussi le cinéaste américain Joss Whedon, créateur de Buffy, qui a déçu ses fans en se servant de son engagement féministe pour mieux mentir à sa femme sur ses tromperies. Donc voilà. Fake news, rendez l'argent.
Ce qui est intéressant justement sur ça, c'est qu'il y a l'épisode « Je suis féministe » de BoJack Horseman. Donc l'histoire de BoJack Horseman, très rapidement, c'est un cheval qui incarne un acteur sur le retour qui vit à Hollywood, qui est antipathique, arrogant.
C'est visible sur Netflix.
Voilà, c'est disponible sur Netflix. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que dans cet épisode, il participe à une série où il y a Diane, donc Diane, l'écrivaine et consultante sur les questions du genre, qui est féministe, qui est engagée, qui s'oppose au casting d'un autre acteur qui a été précédemment écarté à cause de son passé d'acteur violent. Et en fait, il y a une passe d'armes entre lui et BoJack, et BoJack Horseman, qui est aussi, il faut le dire, un vrai connard avec les femmes.
Mardi, ça te convient ? À moins que tu sois trop occupé à te masturber devant de vieilles photos de toi.
Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'était pas ce que tu crois. Je me masturbais devant ce que la photo représente, tu comprends ? T'es entré dans la pièce au pire moment.
Qui se fichent de leur sexualité, de leur plaisir, etc. Et là, en fait, chacun prétend passer pour plus féministe que l'autre. Et donc, du coup, avec le soutien en fait, des médias qui les montrent comme des figures féministes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et ils le font, évidemment. Pourquoi ? Pour les audiences, parce que, voilà, on est dans l'ère post-MeToo, machin, c'est sympa de dire que je suis féministe et de porter un t-shirt. Donc c'est super intéressant, je pense que c'est très représentatif en fait d'un féminisme light qu'on a déjà décrit et dont on a parlé tout à l'heure, qui permet en fait aux hommes d'acquérir une crédibilité, une notoriété sans rien faire. Donc voilà.
Et alors un exemple un tout petit peu plus encourageant, c'était dans le film de fiction sur la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, Une femme d'exception avec Felicity Jones. On se souvient dans le film que son mari, dont j'ai oublié le nom, tant pis, la pousse vraiment et la soutient dans sa carrière. Et c'est lui qui s'occupe de la logistique quand elle travaille.
Dans laquelle j'ai le plus l'air d'un homme de Harvard.
J'ai le plaisir de t'annoncer que tu n'as en rien l'air d'un homme de Harvard.
Et que ça, c'est tellement rare que ça a l'air presque exceptionnel, alors que en fait, c'est vraiment ce que font toutes les femmes d'habitude, sans aucune récompense. Et surtout, on voit bien ce que ça peut créer chez la femme comme tension et comme culpabilité d'avoir la permission sur le bout des lèvres d'exister, de travailler pendant que son mari fait tout.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors moi, je voudrais recommander cette semaine une série anglaise qui est diffusée sur Channel 4, qui s'appelle Pure, qui ressemble un petit peu à la défunte série Girls de Lena Dunham, qui suit l'installation à Londres d'une vingtenaire déconfite qui découvre qu'elle a des TOC, donc ce qu'on appelle en anglais OCD, c'est-à-dire qu'elle a des pensées obsessionnelles sur le sexe, donc elle voit des gens nus un peu partout. Et donc elle fait n'importe quoi dans sa vie personnelle et au travail. Je trouve que c'est une très belle comédie sur la maladie mentale. Voilà.
There's something wrong with me. It's like the sixth sense, but I don't see dead people. I see naked ones.
Et toi, Kiemis, alors qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ?
Donc ma recommandation, c'est un tout nouveau podcast qui s'appelle Écosse Toujours, qui a été créé par deux journalistes françaises qui habitent maintenant en Écosse, qui parlent beaucoup du pays, de leur installation, etc.
Et les derniers jours ont été tellement fous qu'on s'est dit, allez, faut revenir au micro aujourd'hui.
Complètement, c'est un épisode spécial Brexit, après le mois de mars, riche en rebondissements qu'on vient de passer. Il y a eu de multiples votes au Parlement britannique, des retournements de situation à n'en plus finir au Conseil de l'Union européenne, donc on va essayer du mieux qu'on peut d'expliquer tout ça.
Et surtout qui parle du Brexit, qui était le drama politique de ce début d'année, que j'ai vraiment beaucoup suivi et que j'ai suivi avec attention. Elles en parlent de manière assez simple, même si c'est toujours compliqué parce que c'est n'importe quoi. Et vraiment, je le recommande. Je trouve ça super intéressant.
Et est-ce qu'elle parle de la série Outlander ?
Bah, écoute, pas encore, mais je pense que c'est possible. Hein,
Grande série féministe, par ailleurs, devant l'éternel.
Allô, allô,
allô,
allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, cette semaine, on a reçu une question de Madélie, qui est brève et concise. Comment réagir à la dite galanterie qui est mise ?
Alors, moi, mon conseil, c'est que je pense qu'il faut montrer à quel point c'est ridicule d'être gentil, entre guillemets, juste parce qu'on considère que les femmes sont fragiles. Je vois beaucoup de gens de très mauvaise foi, comme d'habitude, dire « oui, les féministes veulent abolir la galanterie, machin ». Bah non, en fait, on considère juste que les femmes ne sont pas juste des petits êtres sensibles qui vont se casser au moindre effort, mais qu'être poli avec tout le monde, en fait, juste la base, tenir la porte à quelqu'un, être agréable et gentil, qu'importe le genre, avoir des petites attentions, qu'importe le genre, en fait, ça devrait juste être évident et voilà, très simplement, en fait. Donc, alors moi, ma réaction, souvent, c'est... Enfin, ma réaction, je ne m'en rends même pas compte, en fait, parce que ça me paraît tellement évident, c'est qu'en fait, je retourne la faveur au mec. Tout simplement, en fait, je lui tire la chaise s'il faut lui tirer la chaise. Je laisse passer s'il faut le laisser passer. Je sais pas, c'est un être humain aussi, donc voilà.
Moi, c'est marrant parce que j'ai des amis féministes qui adoptent le point de vue inverse et qui se disent qu'en fait, c'est tellement la merde que du coup, elles prennent tout ce qui est bon à prendre. Genre,
ouais,
c'est bon, tu donnes la galanterie, mais allez, c'est bon, je prends. Tu
vois, c'est
genre, je prends les miettes.
Je te jure, c'est tellement la merde que... Ouais. Non, j'avoue.
Et pour se référer au concept de galanterie à la française et à ses liens assez pervers avec la notion de culture du viol, on peut aussi recommander l'essai de Valérie Ray Robert, qui est sorti récemment. Bon bah écoute, j'espère qu'on a fait le tour de la question.
Ouais, on a essayé.
Hommes féministes, sortez du bois, contactez-nous.
Donc les filles, si vous avez des gars qui vous disent « je sais pas comment être féministe », voilà un outil.
C'est ça.
Dites-leur d'écouter Quoi de meuf.
Envoyez-les vers nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Merci, salut Camis.
Salut Clem.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Clémentine Gallo.
Et Camis.
Avec, à la réalisation sonore, Aurore Meyer-Mailleux, au montage et mixage, Laurie Galligani, coordination, Laura Cuissard.